Perrine Charles, je suis neurologue de formation et en fait je travaille au département de génétique juste à côté, à la Salpêtrière, où je m'occupe maintenant que de patients avec troubles du neurodéveloppement, donc d'origine génétique, avec troubles du neurodéveloppement, en fait adultes, et donc pour la prise en charge génétique, le suivi, etc. Et donc dans ce cadre-là, on se heurte souvent au suivi somatique de ces patients. Nous, on est sur spécialisés, enfin moi particulièrement en neuro. Et du coup, d'où le développement de cette plateforme Handiconsult à la Salpêtrière. Puisque, comme tout le monde le sait, les personnes en situation de handicap, ils ont les mêmes problèmes de santé que la population générale. Et donc, il faut qu'on puisse les prendre en charge. Et on sait que malheureusement, ces patients en situation de handicap, que ce soit handicap moteur, intellectuel, psychiatrique, polyhandicap, plurihandicap, ils ont des difficultés d'accès aux soins. Il y a plein de rapports depuis 2008 qui ont pointé les difficultés d'accès aux soins de ces patients pour différentes raisons. Je pense qu'on reviendra un peu toutes les deux dessus, mais il y a des facteurs individuels. Bien sûr, un patient avec une déficience intellectuelle, c'est compliqué pour lui d'accéder aux soins. S'il y a des troubles du comportement, des troubles du caractère, c'est compliqué. Souvent, il y a une expression atypique de la douleur et des patients, par exemple, avec un trouble du spectre autistique, la douleur va s'exprimer par des troubles du comportement. Et puis, quelquefois, il y a des surhandicaps moteurs, sensoriels, des plurihandicaps, souvent une précarité socio-économique. Donc, tout ça fait que ces patients ont difficilement accès aux soins courants. Et puis, des facteurs de l'environnement, puisqu'on n'est pas très bien organisé, on n'est pas très bien coordonné, pas très bien formé pour recevoir ces patients. Souvent, aux urgences, c'est compliqué. D'abord, les locaux ne sont pas accessibles, on n'a pas le temps qu'il faut, on n'a pas forcément le matériel, on ne connaît pas forcément ces pathologies rares. Et donc, il faut accorder une place importante souvent à l'entourage qui connaît quelquefois mieux la pathologie rare. Par exemple, moi qui m'occupe de troubles du neurodéveloppement, on est aujourd'hui à plus de 2000 jeunes responsables de troubles du neurodéveloppement. Chacun peut être responsable de quelques cas, et donc c'est sûr qu'on ne va pas connaître tout. Et donc, on s'aide de recommandations de bonnes pratiques, de protocoles nationaux de diagnostic et de soins, enfin de différents outils, mais souvent l'entourage connaît bien la pathologie. Ou alors chez l'adulte, la famille est absente et du coup, si c'est un patient avec une déficience intellectuelle, la prise en charge va être compliquée. Plus fort ? Alors je ne sais pas, le micro a l'air un peu bas. Non, c'est d'accord, pardon. Et alors qu'il y a beaucoup de littérature aussi qui a montré que quand on fait des bilans de santé systématiques à ces patients, et bien souvent on va dépister entre pour 50 à 90% des patients, des pathologies qu'on ne connaissait pas, entre 2 et 3 par patient, souvent avec une action thérapeutique directe. Soit, un problème de tumeur, soit un problème cardiaque, un trouble du rythme, et donc avec des actions thérapeutiques directes ou des mesures de prévention, de cancer, etc. Donc il faut vraiment qu'on puisse se coordonner, se former pour améliorer la santé des patients avec... Alors moi, c'était très axé déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique, mais tous les patients en situation de handicap. On sait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand il y a des troubles du comportement chez un patient avec une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre autistique, il faut faire une analyse de l'environnement et rechercher une cause somatique. Il y avait une étude de l'ANSM de 2018 qui avait montré que c'était dans des institutions et pour des patients qui avaient des troubles du comportement de façon un peu aiguë ou une aggravation de leur comportement, finalement on trouvait une cause somatique avec plein de causes somatiques listées là sur le schéma. Et c'est un vrai enjeu de santé publique parce que c'est vrai que chez ces patients, du coup souvent les diagnostics sont retardés, on fait un diagnostic de cancer plus tard, du coup ça va être une prise en charge plus compliquée, des durées d'hospitalisation plus longues, des conséquences plus sévères et donc du coup un surcoût de dépenses de santé. Donc en termes de santé, c'est un vrai enjeu de santé publique d'améliorer la prise en charge de ces patients. Je vous montre deux exemples rapides. Une petite patiente avec un syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est un trouble du neurodéveloppement très sévère, avec des patientes qui régressent, qui n'ont pas de langage, qui ont souvent une épilepsie, des troubles du spectre autistique. Et une petite patiente qui avait des gros troubles du comportement. Alors c'est vrai qu'en institution, c'est compliqué. Et souvent, on les traite, on leur donne du risperdal. Enfin, on essaie de les calmer parce que ce n'est pas gérable en institution. Et puis finalement, elle avait juste un abcès dentaire. On l'a traité et finalement, les troubles du comportement se sont complètement améliorés. Et puis une autre régression chez toujours une petite patiente avec un syndrome de Rett. On s'est demandé si elle était déprimée, ce qui se passait. Finalement, elle avait juste une cataracte très avancée, elle ne voyait plus rien. Donc effectivement, on a l'impression qu'elle régressait. On l'a opérée de sa cataracte et elle est redevenue comme avant. Mais il faut faire des bilans ophtalmo, qui a un suivi dentaire systématique, etc. chez ces patients. Et donc on sait que chez ces patients, déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, polyhandicap, il y a une fréquence très élevée de pathologies somatiques qu'on diagnostique mal et qu'on prend mal en charge. Donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est tout ce qui est soins bucco-dentaires, la prise en charge des troubles sensoriels, le suivi gynécologique pour les femmes en situation de handicap moteur, la prise en charge de la douleur, et puis voilà, certains cancers qui peuvent être associés à certains syndromes génétiques rares, et puis des pathologies vasculaires, des facteurs de risque, et les troubles du sommeil souvent associés. Donc j'ai déjà parlé de l'expression souvent différente de la douleur qui va se manifester par des troubles du comportement. Et puis chez ces patients, il y a aussi souvent un risque de surpoids parce que du fait de leur mode de vie, lié à certains syndromes génétiques rares, de troubles du comportement alimentaire, souvent d'une atteinte motrice quand c'est un pur handicap, et puis des traitements pour les troubles du comportement, on donne des neuroleptiques, mais ils stimulent l'appétit, vont favoriser la prise de poids, des traitements antiépileptiques comme la dépakine aussi. Donc tout ça, il faut pouvoir le prendre en compte. Ça, je vais peut-être passer, parce que je crois qu'on n'a pas tant de temps que ça. Voilà, il y a pas mal de publications qui montrent ce qu'il faut surveiller en termes de soins somatiques et de dépistage de complications et de comorbidités chez les patients avec déficience intellectuelle. Et d'où l'idée, finalement, de développer des dispositifs en dit consultes, en dit soins, enfin spécifiques, pour prendre en charge ces patients sur le plan somatique. Et donc l'ARS va lancer un appel à projet en 2019 pour développer des dispositifs en petits soins pour qu'il y en ait un par département, puisque l'idée de l'ARS était que chaque patient puisse avoir un suivi somatique de proximité. Et donc nous, on avait répondu à l'appel à projet pour le 75, et finalement c'est notre projet qui avait été retenu, et donc on a pu monter un dispositif en 10 consultes donc à la Salpêtrière. Et donc l'ARS insiste pour que voilà, ces dispositifs offrent une prise de soins somatique complète, hein, diagnostic, préventif, dépistage, vaccin, et ils avaient beaucoup insisté sur ce qui n'est pas bien fait en ville, et puis ce sur quoi toutes les publications avaient pointé les difficultés d'accès aux soins, c'est-à-dire la prise en charge stomatologique, hein, les dents, la gynécologie, et puis de pouvoir gérer l'anxiété et la douleur durant les soins. Avec donc des dispositifs dédiés, avec un accueil par du personnel formé à la douleur, formé au FALC, hein, au facile à lire et à comprendre, que le patient puisse être accompagné, adressé par son équipe référente, son équipe soignante, et puis de réorganiser aussi le parcours de soins de ces patients en coordination avec le médico-social et les acteurs de ville. Ça ne concerne pas du tout la prise en charge de la cause de leur handicap. Hein. Ça, c'est le rôle de nous qui sommes centre de référence maladies rares, déficience intellectuelle. Mais bien sûr, s'il y a un patient, je sais pas, avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre autistique qui vient sur la plateforme et qui n'a pas de diagnostic, bien sûr, il va être réadressé au centre de compétences ou de référence pour éventuellement réévaluer le diagnostic, puisque ça peut améliorer la prise en charge si on connaît finalement le syndrome génétique rare à l'origine de son handicap. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'échelles qu'on peut utiliser. On s'aide beaucoup de santé BD pour expliquer différents. Voilà, par exemple, là, le MEOPA ou la prise de sang. On a des échelles d'évaluation, par exemple, de la douleur dans la déficience intellectuelle ou une évaluation à l'aide de petits pictogrammes. Donc nous, on avait ouvert ça fait 5 ans maintenant, le 11 janvier 2021. Ça a été un peu décalé avec la période Covid, donc on a pu ouvrir un peu plus tard, on a ouvert un peu plus tard que prévu, mais ce qui a permis aux différentes équipes de se former à la douleur ou au handicap, enfin de faire différentes formations. Et donc officiellement, on prend les adultes, hein, puisqu'on est un hôpital d'adultes, en situation de handicap du 75, qui sont soit à domicile, soit en établissement médico-sociaux. Alors bien sûr, tant qu'il n'y a pas de plateforme dans tous les départements, on prend les patients d'autres départements. Mais normalement, on est censé prendre que ceux du 75, et donc des patients qui présentent différents types de handicap. On a beaucoup de patients, en fait, j'ai pas mis les statistiques de notre activité, mais on a plus de 50% des patients, en fait, hospitalisés sur la plateforme qui présentent un trouble du spectre autistique ou une déficience intellectuelle, ou les deux. Après, on en a un tiers, c'est des handicaps moteurs, essentiellement pour la gynécologie médicale, et puis un tiers qui sont d'autres handicaps sensoriels, pluri-handicap ou polyhandicap. Et qui sont bien sûr en échec de soins dans le système courant. Si c'est un patient qui est très bien suivi en ville, on va pas le prendre sur la plateforme. On prend vraiment ceux pour lesquels la prise en charge en ville n'est pas possible. Alors on a conventionné avec les établissements sociaux et médico-sociaux. Quand on a ouvert, l'ARS nous avait donné la liste de tous les établissements du 75, foyers d'accueil médicalisés, enfin tous les établissements sociaux et médico-sociaux, pour qu'on puisse conventionner avec eux, c'est-à-dire leur dire qu'on existe et qu'ils peuvent nous adresser leurs patients. C'est une convention tacite, mais juste pour qu'ils connaissent notre dispositif. Donc l'équipe, avec le budget alloué par l'ARS, on a pu... Donc moi, je suis responsable de la plateforme et je suis donc neurogénéticienne, donc ce n'est pas moi qui vois les patients. Hein. C'est une médecin interniste, en fait, le docteur Fa. On a une gynécologue à mi-temps et puis on a pu embaucher une infirmière, une aide-soignante et un mi-temps d'assistante médico-administrative. Donc on a deux box de consultation ou d'HDJ, dont un est équipé pour voir les femmes en situation de handicap moteur avec un lit de gynécologie qui peut s'abaisser au niveau du fauteuil roulant. Et puis on a, voilà, je vous l'ai remis là, donc on a une petite plateforme, on a une petite plaquette de communication pour nous trouver dans l'hôpital et puis ce qu'on propose. Donc on est situé donc à l'Institut 3M, dans le service de médecine interne du professeur Amora, et on a deux box de consultation, donc ou HDJ, donc soit on a deux patients en HDJ, soit il y a un box qui est réservé par exemple pour la consultation gynécologie, et du coup on va faire de la consultation gynécologique, et puis un bureau d'accueil et de coordination. Donc là, c'était juste la plateforme pour voir ce que je vous ai remis là, ce qu'on propose. Hein. Donc on peut faire un bilan somatique complet. Par exemple, un patient, il peut être juste vu par le médecin interniste, par exemple un patient déficient intellectuel qui a des gros troubles du comportement, elle va faire une évaluation globale pour voir un peu programmer une HDG après, parce qu'il va avoir besoin, je sais pas, de voir le gastro, parce qu'il y a une constipation chronique, le dentiste, parce qu'il n'a pas vu de dentiste depuis des années, l'ORL, et comme ça on va pouvoir programmer, c'est de la programmation. Et donc ce qu'on offre aujourd'hui, c'est des soins bucco-dentaires. Alors, les soins bucco-dentaires étaient bien organisés déjà à l'hôpital avec Julia Bosco pour les patients en situation de handicap. Et donc les dentistes peuvent passer tous les jours sur la plateforme. Enfin, 4 jours sur 5 maintenant, c'est ouvert que la semaine, la plateforme. Et puis après, ils vont planifier des soins, soit dans le service, si le patient peut être traité en consultation, soit à l'unité de chirurgie ambulatoire. C'est une unité de chirurgie ambulatoire qui est mutualisée avec différents services chirurgicaux de l'hôpital et où il y a des créneaux réservés pour les patients en situation de handicap où les odontos donc, peuvent intervenir si besoin. Donc il y a des soins de gynécologie médicale, hein, donc là notre gynécologue médicale fait beaucoup de consultations, il y a beaucoup de demandes, soit de femmes en situation de handicap moteur parce que les cabinets ne sont pas accessibles en ville, soit des patientes avec une épilepsie sévère et dont l'épilepsie par exemple s'aggrave au moment des règles et chez lesquelles elle va prescrire prendre une contraception en continu, ce qui va permettre de ne plus avoir de règles et donc diminuer la fréquence de l'épilepsie, ou des troubles du comportement qui surviennent aussi à ce moment-là. Donc elle a une forte activité en fait pour des patientes en situation de handicap moteur et intellectuel ou trouble du spectre autistique, et puis elle est très en lien avec le service de Marc Domergue et en particulier la Maison des Femmes Casabia, qui est le centre d'accueil en santé sexuelle et de lutte contre les violences à la PHP, puisque malheureusement il y a beaucoup de patientes en situation de handicap intellectuel qui peuvent être victimes de violences sexuelles et du coup elles peuvent consulter directement sur ce dispositif où elles vont être prises en charge sur le plan psychologique, social, juridique et par les sages-femmes. On a des consultations de gastro-entérologie toutes les semaines, programme avec une demi-journée dédiée, et puis des créneaux d'ophtalmo et d'ORL, alors au service d'ophtalmo et d'ORL, et donc l'équipe accompagne les patients, mais dédiés pour nos patients, et du coup avec un délai d'attente moindre, des créneaux un peu plus longs, enfin donc avec des praticiens en fait identifiés un peu dans chaque service, qui ont un regard particulier sur le handicap et qui vont prendre nos patients, qui ne vont pas les faire attendre dans la salle d'attente et prévoir un créneau un peu plus long. Et puis il y a toutes les spécialités, donc là je vous ai mis un peu ce qu'on propose de façon routinière, ce qui sont les demandes les plus fréquentes, mais on peut bien sûr organiser toutes les consultations sur programmation. On fait bien sûr des bilans biologiques éventuellement avec des prémédications, en particulier du MEOPA, des imageries si besoin. Pendant la période Covid, on avait bloqué des demi-journées pour faire des vaccinations. Des médecins d'établissements sociaux, médico-sociaux nous avaient sollicité pour vacciner différents résidents qu'ils avaient du mal à vacciner dans l'établissement. Voilà. Voilà, on peut faire aussi évaluer sur le plan multidisciplinaire des patients avec des pathologies neurodégénératives évoluées, hein, par exemple des patients avec une maladie de Huntington où se pose le problème par exemple, d'une gastrostomie d'alimentation, et du coup on peut se réunir sur la plateforme avec l'équipe de mobile de dénutrition, de la douleur, des soins palliatifs, notre gastro-entérologue et le praticien de référent du patient, voilà, pour pouvoir faire des mini-RCP. Et puis toutes les consultations mobiles, l'unité mobile de rééducation peut intervenir sur la plateforme. Et puis on peut organiser toutes les autres consultations spécialisées si besoin. On prépare, il y a toute une partie d'entretien téléphonique pour préparer la venue du patient sur la plateforme. Hein, et donc on a une infirmière de coordination qui va, c'est de la programmation, donc elle va appeler soit le médecin, soit l'établissement médico-social pour voir quel est par exemple, le type de communication du patient, voilà, pour pouvoir préparer sa venue, éventuellement faire une visite à blanc. Hein. Il peut venir sur la plateforme et repartir pour essayer que ça se passe le mieux possible et qu'on puisse faire les différents examens demandés par le médecin. Et puis on va bien expliquer les différents temps de la séquence de soins. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, on essaye de faire un peu de recherche et de formation. Hein. Par exemple, notre gynécologue médical participe à une éducation thérapeutique patient sur la parentalité chez les patients en situation de handicap intellectuel. Elle a un projet de faire des auto-prélèvements HPV chez des patientes en situation de handicap moteur qui pourraient être faits à domicile et elle ne reverrait que les patientes qui ont besoin d'une exploration plus spécialisée. Voilà, on a un projet d'habituation aux soins avec une association de patients autistes qui nous a donner des casques de réalité virtuelle pour essayer de voir si avec le casque, ben les patients, c'est plus facile de faire des soins, une prise de sang ou autre. On essaie de former le paramédical et les médecins à la prise en charge des patients en situation de handicap, parce que finalement, peut-être qu'il y a beaucoup de patients qui pourraient être pris en charge dans des consultations courantes, juste si les médecins étaient mieux formés et prenaient juste un créneau un petit peu plus long. Hein. Par exemple, pour les dentistes, il y a un réseau qui s'appelle Rhapsodif, qui sont des praticiens dentaires en ville, mais qui prennent des patients en situation de handicap et qui ont obtenu une revalorisation de leur consultation par la Sécurité sociale, parce qu'ils prennent un créneau plus long, parce qu'ils peuvent faire du méopa. Et du coup, nous, on réadresse sur Rhapsodif, de temps en temps, des patients qui finalement peuvent être pris en ville. Et donc, on a les internes de gynécologie médicale qui viennent à la consultation de notre gynécologue. Puis, on avait par exemple accueilli une infirmière en pratique avancée dans le cadre de son stage de master. On a répondu à quelques appels à projets pour juste pouvoir recueillir. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert la plateforme, donc pour voir un peu quel type de patient on voyait, quelles comorbidités, quelles complications on pouvait dépister. Et donc, ça, c'est en cours de rédaction. On aimerait renforcer l'équipe, avoir des équipements spécifiques ophtalmo-estomato, ce qui éviterait aux patients d'aller dans l'hôpital. Par exemple, la plateforme de Ville-Évrard, ils ont un équipement stomato sur la plateforme. Et puis, on essaye d'avoir un référent dans chaque service, un référent handicap. Il y a un petit projet IDAN qui sont d'aller en fait dans les établissements sociaux et médico-sociaux, donc des paramédicaux qui vont avec des caméras. Alors, je n'y connais rien là, au dentaire, mais voilà, qui mettent des colorants dans la bouche. Si ça vire au rouge, c'est une carie. Si ça vire au vert, c'est du tartre et ça permet de voir s'il faut voir les patients rapidement ou non. Voilà. J'ai déjà parlé un peu de la formation des étudiants et des paramédicaux. Alors ça, c'était juste pour vous illustrer donc un peu les dispositifs handi-soins et handi-consul sur le plan national, parce qu'il y en a, voilà, il y a un maillage national qui est plutôt pas mal. Et puis donc, ma collègue va vous parler du dispositif handi-soins qui a ouvert en septembre, en Louis-Maurier. Donc maintenant, on est à 8, bientôt 9, puisque je crois qu'il y en a un qui ouvre bientôt, début 2026, c'est ça, dans le 91. Et donc là, il y a 2 dispositifs sur le 75, et puis il y en a 95, 93, 94, 77, 92, 78, et bientôt 91. Donc ça, c'est des centres dédiés. Il y a des journées de consultation dédiée handicap de la SOFCO, c'est la Société française des consultations dédiées handicap. Depuis 2021, il y a une journée, voire 2 tous les ans. Et donc cette année, si ça vous intéresse, c'est à Paris, donc le 21 et le 22 mai prochain. Donc c'est des journées dédiées au dispositif handi-soins. Et cette année, le programme est axé sur la santé justement bucco-dentaire et la prise en charge des troubles plus comportement, enfin des problèmes psychiatriques. Je crois qu'on va lancer bientôt on va pouvoir s'inscrire, les inscriptions. Et donc juste, il y a des critères entre guillemets de labellisation d'un dispositif des soins pour qu'il soit labellisé par la Société française des consultations dédiées handicap. Donc c'est de recevoir des personnes en situation de handicap en échec de soins en milieu ordinaire, quel que soit leur handicap, leur âge, leur lieu de vie, de proposer un accueil en secteur ambulatoire, ce qu'on fait. Alors nous, je ne vous ai pas mis les statistiques, mais les patients sont vus le plus souvent en hôpital de jour, c'est ce qui se prête le plus à nos patients. On n'a pas d'hospitalisation de toute façon avec des lits, c'est que de l'HDJ. Et donc 50% des patients viennent un peu plus de 50 en HDJ et le reste c'est de la consultation seule. Parce que souvent ils viennent pour voir le dentiste, voir avoir une évaluation de médecine interne, une prise de sang et le gastro. Et en plus, comme ce sont des patients en situation de handicap qui sont vulnérables, on peut les mettre en HDJ pour moins d'actes que l'HDJ dont on nous a parlé là juste avant. Et du coup, votre dispositif nous intéresse parce que ça peut-être pourrait permettre éventuellement qu'on programme plus de patients par jour et avec des délais entre 2 examens moindres avec votre dispositif dont vous nous avez parlé. Donc, offrir des soins bucco-dentaires et des consultations médicales courantes, c'est ce qu'on a. Sanctuariser ces consultations dans un lieu et un accueil spécifique sur une plage horaire dédiée, dans une temporalité adaptée, avec un accompagnement humain, etc. De disposer de techniques pour faciliter l'installation et le confort des patients, en particulier avec l'homéopathe qu'on a sur le dispositif. Encourager l'implication des aidants familiaux ou professionnels, ben même pendant la période Covid, on laissait rentrer bien sûr l'accompagnement de l'établissement social et médico-social ou l'accompagnement de la famille. Et puis on réoriente vers le milieu ordinaire si on peut, et puis on a un lieu de ressources d'information, d'orientation et de formation. Je laisse la parole à ma collègue.
L'handiconsult de Louis Mourier qui a commencé son activité le 1er septembre 2025. Donc c'est un handiconsult dont je suis le médecin référent et moi je suis médecin généraliste de formation. Voilà. Donc comme me disait ma collègue, l'handiconsult ça s'adresse aux personnes en situation de handicap. Pardon. On sait que 70% des personnes en situation de handicap renonceraient aux soins et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que l'accessibilité des cabinets médicaux est parfois très difficile. La deuxième raison, c'est que la durée des consultations en ville est trop courte. Et puis, la troisième, c'est le manque de formation du personnel médical. Et donc, les objectifs de l'handiconsult, c'est de permettre et d'améliorer la prise en charge des patients en situation de handicap sous le label handiconsultation, handi-access. Et puis de permettre aux patients d'être acteurs de leur prise en charge. Donc nous, Louis Mourier, dans le 92, à Colombes, nous sommes donc un nouveau centre de consultation somatique dédié aux personnes en situation de handicap. Comme on vient de le dire, on fait partie des 8 ou 9 handiconsultes de l'Île-de-France et donc on répond à une demande sur le 92 plus spécifiquement. Donc on est situé à Louis Mourier, à Colombes, on est un hôpital avec un parking, on est PMR, donc tout convient. L'handiconsultation est au rez-de-chaussée, voilà. On a candidaté en septembre 2024, avec le professeur Elisabeth Aslongul de médecine interne. Et puis ensuite, on a mis à peu près un an à mettre en place toute l'handiconsulte, avec d'abord la visite d'autres handiconsultes pour voir un peu quels étaient les arguments forts, l'organisation, et puis ensuite les travaux d'adaptation des locaux, la commande du matériel spécifique à l'handiconsulte, c'est très important, la mise en place de tous les outils informatiques, le recrutement aussi et la formation du personnel, à commencer par moi, le recrutement d'une infirmière et d'une aide-soignante et d'une AMA. Et puis, nous avons ouvert finalement le 1er septembre 2025, inauguré le 26 novembre 2025. L'offre de soins, donc l'handiconsulte, c'est la médecine générale, c'est de la gynéco-obstétrique, des soins infirmiers, on y reviendra, et puis tout ce qui est soins dentaires. Les soins dentaires, comme à la Pitié, ça existe depuis très longtemps à Louis Mourier, donc il manquait le somatique et l'handigynéco, qui donc sont maintenant en place dans l'hôpital, et pour le 92 du coup. Alors, l'offre de soins de médecine générale ou l'offre de soins, le bilan somatique, donc ma partie, c'est l'avantage, parce que ce sont des consultations longues. On propose 1h30. Le créneau, en tous les cas, c'est 1h30. Alors, ça peut aller un peu plus vite, un peu moins, mais c'est généralement, c'est le temps qu'il faut. Et on essaye pendant cette heure et demie de faire un bilan somatique complet. Ça veut dire d'abord l'accueil du patient, la réassurance du patient et puis bien sûr toute la partie des accompagnants. Ce sont souvent des dossiers, vous imaginez bien, assez lourds, conséquents. Donc une étude que je peux faire en amont, mais ce n'est pas toujours très simple parce qu'on n'a pas toujours les documents. Donc beaucoup pendant le temps de consultation, des patients ou des patientes qui sont parfois, j'allais dire, durs à manipuler, enfin, comment les installer, et tout aussi longue, une longue partie, parce que nous, on a aussi pas mal de patients handicapés moteurs avec des maladies neurodégénératives, et donc ça veut dire lèvres malades, en surpoids aussi, donc tout ça, c'est une prise en charge très complexe, donc 1h30, c'est pas de trop. Et donc le personnel est formé, l'infirmière et moi on a fait des formations et l'aide-soignante était déjà formée avant au handicap. Donc on forme une équipe voilà, assez complète. On a 4-5 demi-journées par semaine de soins somatiques. Et puis parallèlement à ça, on a de l'endigynéco, des consultations pour l'instant qu'on estime à une heure à peu près, et qui elles aussi sont encadrées par un personnel formé. Cette offre est donc complétée par, si c'est nécessaire, des examens biologiques, bien sûr des examens radiologiques, des avis spécialisés, exactement comme à la Pitié. On a l'avantage d'avoir pas mal de spécialités à Louis-Mourier. On peut faire aussi des hôpitaux de jour, on peut faire des hospitalisations complètes. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'en programmer, mais peut-être que ça viendra. Et puis, on peut compléter toute cette offre par l'offre de soins infirmiers, c'est-à-dire que l'équipe, à l'image de ce qu'on vient de nous dire tout à l'heure, prépare toute la consultation. Et ça, c'est un gros travail, le recueil des données. Il nous faut pas mal de documents pour mener à bien la consultation, les antécédents, mais aussi toute la description, j'ai envie, de prise en charge du patient. Est-ce qu'il est verbal, non verbal, quels sont agités, pas agités, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pendant la consulte pour apaiser le patient, leur rappeler qu'ils peuvent apporter un doudou, enfin bref, vraiment préparer la consultation en amont, rappeler qu'il nous faut les mesures de protection juridique, rappeler qu'il faut un accompagnant obligatoire, parce que c'est obligatoire à l'image de ma collègue. Pendant la consultation, elles peuvent aussi faire donc le CG, un bilan sanguin si c'est nécessaire. Et puis on a commencé à organiser, mais j'en parlerai peut-être après, les consultations d'habituation aux soins pour les patients les plus compliqués à prendre en charge, où à force d'habituation, on arrive à mettre un garrot pour faire un bilan sanguin, à mettre pour le CG et tout ça. Donc bon. Mais nous, on en est au début, donc on est un peu moins rodés que mes collègues. Les locaux sont adaptés. On a une salle d'attente qu'on a réaménagée avec des poufs, des coussins, un radiateur qu'on a protégé au maximum. On a le matériel est lesté, donc je vous mets au défi de transporter la table, de transporter les chaises. Normalement, c'est pas possible. Vous avez le bureau de l'assistant médical juste à côté, et puis donc on a aménagé la salle de consultation qui est assez vaste. On a deux fauteuils, deux tables d'examen. On a au fond une table qui peut se transformer en table gynéco, et là on a un fauteuil de prélèvement. On a le CG, l'appareil à tension, et on a mis la colonne Snozelen. Donc une colonne, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, mais enfin bref, qui diffuse une colonne multisensorielle avec du visuel, de l'olfactif. Merci. Et voilà. Et donc on a, alors je vous la fais courte, mais cette colonne, on l'avait mise au départ dans la salle d'attente, et donc on l'a fait revenir en fait parce que donc dans la salle d'attente, ça a apaisé beaucoup les patients. Mais du coup, nous, on ne voyait jamais les patients. Donc, c'était moi qui devais me déplacer dans la salle d'attente et me mettre par terre pour aller faire l'auscultation cardio-pulmonaire et tout ça. Et donc, on s'est dit que peut-être qu'on serait plus rentable à faire venir la colonne Snozelen dans la salle de consulte. Alors, parmi vous, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont le projet de monter une handiconsulte un jour. C'est probablement, je pense, la meilleure méthode. Franchement, pour l'instant, on a zéro méopa. Et encore, là, lundi, on a pu faire le prélèvement sans méopa, rien. Bon, on était trois personnes, hein, mais peut-être que dans un an, je vous dirai plus les mêmes chiffres. Mais pour l'instant,
il vous reste encore
3 minutes.
Ouais, max.
Max.
Parce que là, on a
beaucoup
de retard.
Très bien. Eh bien, on a aussi du matériel adapté. Du coup, les patients, on essaie de les apaiser au maximum devant l'écran de télé. On a donc juste sur le bilan organisationnel, on pourrait dire qu'on a les facilitateurs pour monter le projet. Ça a été indiscutablement d'abord le financement ARS, deux, tout le soutien ARS qui sont venus nous voir à plusieurs reprises. On a eu au moins 4 réunions de pilotage et vraiment ils nous ont beaucoup aidés dans la mise en place du projet. Bien sûr, les échanges avec les autres handiconsultes. Et puis Louis Moyer, qui connaissait déjà le handicap par le biais de la consultation dentaire, et une équipe motivée. Voilà. Le bilan, on a vu pour l'instant 30 patients, exactement comme ma collègue, avec tout type de handicap. Et puis les perspectives, j'ai juste un mot à vous dire. Louis Moyer a été retenu pour ce qu'on appelle le handibloc. Donc le principe, là aussi, c'est d'organiser, quand c'est nécessaire, pour les patients en situation de handicap les plus difficiles à prendre en charge, parce que très agités, très anxieux, voilà. En fait, un bloc, une anesthésie générale, avec ou non d'ailleurs un soin chirurgical, mais surtout pour réaliser un soin chirurgical, plus ou moins bilan radiologique, des consultations gynécologiques ou des explorations fibro ou ORL, une vaccination, un bilan sanguin, tout ce qu'on ne peut pas réaliser pendant la consultation somatique pour plusieurs raisons. Voilà, on pourrait faire aussi des actions de dépistage ORL, DPEA, DPE. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. On doit être prêt en décembre 2026, je suis perdue. Et donc là aussi, il va y avoir un gros travail de coordination. Quels sont les patients qu'on met au bloc? Pourquoi est-ce qu'on les met au bloc? Comment, enfin bref, organiser toute la coordination de soins derrière. Voilà, j'ai fait au plus vite. Alors là...